Nous avons rendez-vous avec Daniel, encore une fois. Au chapitre 1er, nous complétons notre lecture de ce chapitre à partir du verset 8 et jusqu'au verset 16. Daniel, chapitre 1er, verset 8. À 16. Daniel décida dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains, mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Désormais, l'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Simplement un verset dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 22, Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Nous avons examiné longuement dans nos deux dernières études la prise de position extrêmement nette du jeune Daniel. Nous avons essayé d'examiner en profondeur, sous le maximum d'aspects, pour souligner que Daniel était un radical. Sa position était claire. Il avait vraiment le souci de marcher dans la sainteté, non pas superficiellement, mais en profondeur, à partir du cœur. Certains d'entre nous, travaillés peut-être par le Saint-Esprit, seront encouragés à envisager une marche avec le Seigneur qui soit plus nette, moins floue, plus radical, plus vrai. Mais, ce faisant, ils courent un autre danger. Ce réformateur, bien connu que fut Martin Luther, parlait de l'homme comme d'un cavalier ivre. Monté en selle sur son cheval, son ivresse le fait tomber d'un côté. Remonté en selle sur le même cheval,
son ivresse le fait tomber de l'autre côté. Et nous avons beaucoup de peine à maintenir l'équilibre dans notre vie avec Jésus-Christ. Et quand nous sommes rendus sensibles par l'action du Saint-Esprit concernant l'importance de la sainteté, quand nous nous humilions devant Dieu, quand Dieu rencontre un cœur ouvert, désireux d'obéir, alors nous fonçons de tout notre cœur. Et nous partons très vite en bataille contre tout ce qui n'est pas saint à nos yeux.
C'est pourquoi cette dernière étude
est nécessaire.
Et ce que Dieu semble, en tout cas, parmi d'autres enseignements, avoir voulu souligner dans le texte qui nous occupe, c'est qu'il importe que la sainteté se vive dans un certain climat. Et le climat qui préside à cette résolution du verset 8 est absolument remarquable. Vous avez vu comment le jeune Daniel, à l'âge où l'on est très absolu, radical dans ses positions, vous avez vu comment Daniel prend position. Il le fait avec amour, sans dureté, sans esprit de jugement, sans mépris. Il use d'une grande délicatesse de cœur. En quelque sorte, pour reprendre la première épître de Pierre, il prend position selon les convictions que Dieu a inscrites dans son cœur, mais il le fait avec respect, avec douceur, avec modestie. Il pourrait s'ériger en juge orgueilleux de la société babylonienne.
Il pourrait avoir un certain mépris vis-à-vis d'elle, après tout ce qu'il a peut-être déjà découvert, qu'il a choqué.
Mais il ne veut pas imposer autoritairement sa résolution au monde païen.
Ce n'est pas un jeune homme de Dieu autoritaire dans sa marche avec Dieu.
Et il va donc tout faire pour dégager la responsabilité de son patron direct. Il ne s'impose pas. Il nous est dit exactement au verset 8 qu'il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et la manière dont il s'y prend va permettre une situation relativement détendue. Au lieu de braquer de manière frontale son supérieur, son patron, il va toucher son cœur
par sa courtoisie.
Il essaye de se mettre dans la peau
de cet homme.
Il sait que cet homme a lui aussi un patron au-dessus de lui et qu'il a reçu des ordres et qu'il risque sa peau si les choses se passent mal.
David n'est pas un jeune homme égocentrique, préoccupé de sa petite personne. Ce n'est pas moi mon corps, moi mes besoins, moi ma sainteté. Il a à la fois le souci de glorifier Dieu par une vie de sainteté, mais en même temps, on devine une compassion, un désir de comprendre et d'aider ce patron qui ne connaît pas son Dieu.
Il marche dans la vérité et la sainteté avec amour.
C'est un homme de tact. Le tact. L'art du toucher. Ce petit mot latin, tactus. L'art de savoir toucher. Et c'est vrai, je le redis, après tout ce que nous avons partagé hier après-midi, hier soir, nous pourrions verser dans une extrême et ne plus avoir de tact dans nos relations avec ceux qui nous entourent, à la fois dans l'Église, face peut-être au laisser-aller de tel frère, de telle sœur, au climat de l'Église locale,
et bien entendu face au monde qui nous entoure.
Nous devons essayer de toucher le cœur des gens, et non pas de les assommer. Je pense à l'histoire de ce coiffeur, barbier, qui avait assisté à une réunion au cours de laquelle le prédicateur avait beaucoup insisté sur l'importance de partager sa foi avec ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, ce soir-là, l'avait saisi. Et devant Dieu, il s'était engagé à parler de Jésus-Christ à la première personne qui entrerait dans sa boutique pour être coiffé, pour avoir la barbe taillée le lendemain matin. Et le lendemain matin, à l'heure dite, le salon de coiffure s'ouvre sur une première personne qui vient s'installer dans le fauteuil. Et notre ami, le barbier, lui attache un tablier autour du cou et vigoureusement, il se met à aiguiser son rasoir. Et il était tout tremblant. Au fond de son cœur, comme on dit chez nous, ça battait la chamane. Il faisait de la tachycardie. Il disait, Seigneur, comment est-ce que je dois faire? S'il te plaît, je me suis engagé devant toi, aide-moi à lui parler. Et là, je vais citer vigoureusement son matériel, là. Il est déguisé, puis subitement, il regarde l'homme droit dans les yeux et lui dit, « Mon ami, êtes-vous prêt à mourir et à rencontrer Dieu ?» Et vous savez, ce jour-là, notre ami le barbier a perdu un tablier et un client. Daniel, je suis troublé, lance un premier défi à notre tendance au déséquilibre. Quand Dieu nous reprend dans le domaine de la sainteté, nous devenons très durs. Nous avons tellement peur de manquer de sainteté quand nous avons soif de suivre Jésus-Christ. Et nous devenons dans notre sainteté comme des véritables soldats de plomb. Nous devenons capables d'écraser. Nous versons vite dans le légalisme. Alors le Seigneur nous rappelle l'importance de l'amour. Et nous sommes tellement touchés par ce qu'il nous dit sur l'amour que nous nous engageons devant lui. Et nous demandons au Saint-Esprit de développer le fruit de l'Esprit, l'amour dans ses différentes composantes. Et alors nous devenons trop souvent comme des mollusques. Nous perdons toute colonne vertébrale. Et peu à peu, nous nous retrouvons dans un problème de manque de sainteté. Vous voyez, continuellement se balancier dans nos vies. Tantôt vers l'extrême droite, tantôt vers l'extrême gauche. Alors comment Daniel s'y prend-il?
Mais avant cela, j'ai sous les yeux une remarque de cet homme de Dieu remarquable que fut Tozer,
et qui dit ceci.
Dans ce monde de corruption,
existe le réel danger pour tout chrétien soucieux de réagir contre le mal, de devenir la victime d'une maladie professionnelle qui caractérise les défenseurs de la religion, à savoir l'esprit de critique, qui n'est pas à confondre avec l'esprit critique. Nous devons, les uns et les autres, faire preuve d'esprit critique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas appelés à avaler n'importe quoi. Le disciple de Christ juge de tout, c'est-à-dire qu'il jauge, vous ajoutez un petit A. Il prend des mesures. Il est appelé à discerner. L'homme spirituel a la pensée de Christ. Et on ne jette pas ses perles devant les pourceaux. L'importance de l'esprit critique. Mais par contre, l'esprit de critique est très dangereux. Voilà comment continue notre ami Tozer. La nécessité constante dans laquelle se trouve le chrétien d'aller à contre-courant des masses peut faire naître en lui la mauvaise habitude de trouver coûte que coûte des fautes chez les autres. Il critiquera systématiquement le comportement des autres sans indulgence, sans amour. Cet esprit de critique est d'autant plus dangereux que celui qui le pratique est souvent sans reproche. Il analyse avec précision et finesse. Il juge et apprécie correctement. Et malgré cela, il est dans l'erreur. Terriblement dans l'erreur. Dangereusement dans l'erreur. Je suggère un remède à cette attitude qui cherche la faute chez autrui. L'action de grâce. Contraindre son cœur à être reconnaissant constitue un pouvoir efficace contre l'esprit de critique. Un cœur qui sait sincèrement dire merci ne peut aussitôt s'abandonner à la critique. Et c'est vrai que Daniel 6 nous révèle que cet homme de Dieu a développé dans sa vie un principe de discipline dans la prière, mais toujours associé à la reconnaissance, à la louange. Parce qu'il était, comme nous, sensible à cette dimension que nous évoquons ce matin. Alors comment procède-t-il pratiquement?
Il procède pratiquement en faisant une proposition
à son patron. Et nous allons transposer cette proposition en langage de notre temps.
Il lui dit, en quelque sorte, regarde-nous vivre au régime de notre Dieu,
ce Dieu que tu ne connais pas. Regarde-nous vivre pendant 10 jours.
10 jours.
Et après cela, tu te prononceras. Et nous accepterons ton verdict. Éprouve-nous.
Ce que le jeune Daniel propose,
c'est le test de la vie quotidienne. Le jeune Daniel lance un défi à tous ses collègues et supérieurs non-croyants, en quelque sorte.
Il accepte, et ses camarades avec lui, qu'on les regarde vivre de près pendant 10 jours. Il accepte le test de la qualité de la vie.
Je dois dire que je suis dans mes petits souliers quand je pense à cela. Est-ce que nous sommes disposés à accepter dans nos vies un tel test? Qu'on nous regarde de près, pendant 10 jours, dans notre vie quotidienne, et qu'ensuite on se prononce. Quel défi! Et ce n'est pas un défi dans une dimension simplement individuelle. Il concerne 4 jeunes gens qui ont des relations très étroites les uns avec les autres. qui est donc aussi un défi collectif. Il y a d'une part le défi individuel dans ma vie quotidienne, au travail, dans la rue, dans mes loisirs, à la maison, au sein de ma famille qui ne connaît pas le Christ, et puis il y a le défi de la vie de l'église locale, de mes relations avec mes frères et sœurs. Le monde regarde vivre mon assemblée. Et ça n'a pas dû être facile.
Il y a, au verset 16, une petite nuance qui ne figure pas dans toutes les versions,
mais qui est importante. Un petit mot, un adverbe.
Désormais, l'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, leur donnait des légumes.
Et ce petit adverbe pourrait sous-entendre le type de tension qu'ont dû subir Daniel et ses compagnons pendant les 10 jours. À savoir que leur chef avait tellement peur d'entrer dans ce jeu, d'accéder à cette proposition, que il se pourrait que ce désormais signifie que on leur a fait passer sous le nez les bons petits plats de la cour de Babylone. On n'a pas dit, bon, vous voulez votre petite nourriture à vous, on va tout de suite obtempérer, vous aurez exactement ce que vous voulez. Non, ça a peut-être été plus difficile que cela. On a essayé de les faire succomber à la bonne odeur de ces plats de Nebuchadnezzar. On a essayé de les diviser. On les a testés. Comme un certain Saddam Hussein, tout au long de ces dernières semaines, a essayé de diviser toutes les puissances qui, d'un commun accord, avaient pris une position claire, assez unanime. C'est un peu un travail de sape du même genre. On les a observés. On a essayé de trouver la faille pour qu'ils succombent.
Et cette équipe a donc supporté des pressions
que j'appellerais stomacales, digestives,
mais aussi des pressions sentimentales,
parce que tout ceci s'inscrit dans une compétition, dans un concours national. Les candidats étaient nombreux pour ces quelques places de hauts fonctionnaires à la cour de Babylone. Et on imagine les ricanements de ceux qui ne faisaient pas partie de cette équipe d'Israël et qui se frottaient déjà les mains en se disant « Oh, ils sont sur le point de perdre. Si on fait encore un petit peu pression, on leur mettra la tête sous l'eau et ce sera fini. »
Mais j'imagine la moquerie.
Les sarcasmes. Ne voyez-vous pas ce que vous risquez dans cette situation?
L'épreuve
de la qualité de la vie.
Lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre,
un jour, alors qu'il était en train d'enseigner, de guérir, d'aimer, des émissaires de Jean-Baptiste qui croupissaient au fond de sa prison et qui traversaient sans doute des moments très difficiles sont venus vers Jésus et lui ont posé une question. Voilà ce que notre maître nous envoie te dire. Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre?
Et une lecture attentive des textes nous montre que Jésus n'a, semble-t-il, pas forcément répondu tout de suite.
Il les a entraînés à sa suite, et il a continué à enseigner, à guérir, à poser ses mains sur la lèpre, à toucher des oreilles et des yeux, à exercer son ministère. Et puis, au bout d'un certain temps, il s'est tourné vers ses ses émissaires.
Il leur a dit simplement ceci, c'est Luc 7 qui le rapporte dans les versets 18 à 23. Rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu.
Vu et entendu. Ce qui amènera certains d'entre nous peut-être à se réjouir et à dire, mais c'est fantastique, vous voyez donc que le plus important, ce n'est pas ce qui est entendu, mais c'est ce qui est vu. Puisque Jésus dit d'abord ce que vous avez vu, et puis seulement après ce que vous avez entendu. Là, ce sont les partisans du témoignage silencieux qui gagnent. Mais il se trouve que
l'évangéliste Matthieu
a rapporté le même événement. Et curieusement, peut-être Jésus s'est-il répété, a-t-il même développé cette pensée?
Curieusement, Matthieu dit
l'inverse. Rapportez à Jean ce que vous, vous entendez et voyez. Ça, c'est pour mettre tout le monde d'accord. L'un est aussi important que l'autre. Mais ce que le Seigneur Jésus a voulu souligner, c'était l'importance du témoignage vécu. L'éloquence du témoignage vécu vis-à-vis de notre entourage. Je pense à ce texte où Jésus est en retraite au nord d'Israël, sur les premières pentes de l'Hermon, certainement, et où il pose une question, un sondage de l'époque, qui dit-on que je suis? Et alors on évoque un certain nombre de noms qui donnent une idée, d'ailleurs, de la manière dont le Seigneur Jésus était perçu. C'est intéressant. Et puis finalement, Jésus dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et vous connaissez cette réponse de Simon-Pierre, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que cette équipe d'hommes l'avait vu et entendu, entendu et vu, et il l'avait côtoyé de près.
Je pense aux gardes envoyés par les pharisiens pour arrêter Jésus qui revient bredouille, et qui devant les remontrances très sévères des chefs du peuple, des pharisiens, ne peuvent que dire, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme.
Je pense au centenier qui observe la mort du Seigneur Jésus sur la croix et qui finalement ne peut que dire, mais cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Le ministère de la qualité de la vie. Quel défi pour nos vies à chacun.
À quoi le monde reconnaîtra-t-il que le Christ vit en nous? Et que nous sommes princes et ambassadeurs, citoyens d'un royaume de lumière et de vérité.
Est-ce que ce sera à cause de nos autocollants,
nos badges, nos t-shirts, nos artifices extérieurs,
nos discours, nos slogans? Que croyez-vous que je vais répondre? Oui.
Je crois effectivement que le monde peut reconnaître grâce à cela.
Je ne suis pas opposé à ces moyens.
S'ils sont accompagnés de la qualité de la vie de tous les jours,
s'ils sont utilisés avec tact, de la bonne manière, si réellement le Seigneur a pu commencer à transformer notre caractère à sa ressemblance.
Dans le fond, ce qu'il faut dire ici, c'est qu'il nous faut vivre à la hauteur de nos slogans,
vivre à la hauteur de nos affirmations. Il semble que le continent nord-américain soit fort dans les inscriptions autocollantes qu'on met sur les pare-chocs de voitures et ailleurs. La France suit le même chemin. Et j'ai lu, d'ailleurs, dans une revue tout à fait profane, ce qui s'est passé aux États-Unis. Quelqu'un en a été directement le témoin. Et il y avait une Américaine qui était dans une voiture arrêtée à un feu rouge et elle avait devant elle une voiture bourrée d'enfants. Et ce véhicule devant elle portait sur le pare-choc cette inscription « Si vous aimez Jésus, klaxonnez ». Alors, notre gentille Américaine, démettre un plus gentil encore petit coin-coin pour faire signe devant et dire « Moi aussi, je l'aime ». Mes amis, j'ai la réaction sous les yeux de la conductrice de la voiture qui était devant. Je ne vous la donne pas parce que vous seriez honteux de l'entendre. Mais jamais, sans doute, une fenêtre avant de voiture n'est descendue à une telle vitesse pour laisser apparaître un visage complètement déformé. Et je ne vous dis pas ce qui est sorti de là, n'est-ce pas ? Si vous aimez Jésus, klaxonnez. C'est Billy Graham qui a raconté son expérience à une conférence de jeunes prédicateurs. Il se trouvait dans un avion qui était bondé de passagers et voilà qu'un homme ivre se lève de sa place et dans l'allée centrale, en titubant, s'approche jusqu'à lui et aborde donc Billy Graham pour lui dire combien il lui était reconnaissant pour son ministère. Et il explique entre deux hoquets que la prédication de Billy Graham avait changé sa vie. Puis il s'en est retourné en titubant à sa place.
J'ai relevé aussi cette histoire tout aussi comique de ce moniteur d'école du dimanche de club dansant qui se promène et se pavane comme un paon devant sa classe d'école du dimanche et il explique l'importance de vivre dans l'obéissance à Jésus-Christ.
Et puis subitement, il se tourne vers les enfants et leur dit «
Maintenant, les enfants, pourquoi les gens disent-ils que je suis un chrétien ?»
Il y a un grand silence qui s'installe dans la classe. Et puis, il y a un garçon qui lève timidement la main. Alors, il regarde et il tonne de savoir « Oui, toi !» Probablement parce qu'ils ne vous connaissent pas. Quelqu'un a un jour demandé à Whitfield, à propos d'un certain monsieur qui était là dans une salle, si ce dernier était vraiment disciple de Christ. Whitfield a simplement répondu, écoutez, je ne le sais pas, mais demandez à sa femme. Demandez à sa femme. Qu'en est-il de notre qualité de vie à la maison? Est-ce que c'est maman qui fait le ménage dans ma chambre? C'est ce que je dis habituellement dans les camps de jeunesse. Est-ce que maman est tout entière à mon petit service, à traîner le balai et à s'occuper de tout, alors que je lis ma Bible consciencieusement, n'est-ce pas? Ministre de la qualité de la vie.
Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles,
mais en puissance.
En puissance qui émane d'une vie transformée.
Nous avons évoqué le test
collectif plus de la qualité de la vie dans l'histoire de Daniel et de ses compagnons. Imaginez ce qui se serait passé si au bout de 10 jours, il y en avait eu 2 qui aient perdu 20 kilos et 2 autres qui aient une merveilleuse pleine lune, n'est-ce pas, une mine superbe. À la cour de Babylone, on se serait posé un tas de questions. Des gros, larges, en pleine forme, qui respirent la santé, puis des maigres, filiformes, qui se tiennent comme ils peuvent pour ne pas s'écrouler. Ce qui est frappant, c'est l'unité de cette équipe. Dans les 3 premiers chapitres. Une équipe soudée. Une équipe unie, une équipe qui prie ensemble. Une équipe qui partage. Une équipe dans laquelle on ne se jalousie pas. Regardez, au chapitre 2, nous avons évoqué la réunion de prière du GBU, là, de Babylone. Mais regardez la conclusion du chapitre 2 à partir du verset 46. Le roi Nebuchadnezzar, ce plus grand des potentats de l'époque, tombe sur sa face et se prosterne devant Daniel. Et il ordonne qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel, lui fit de nombreux et riches présents, et lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Pense au roi. À mes petits copains. Ah, s'il y avait un moment dans ce début de carrière de Daniel où il pouvait être égocentrique, s'il y avait un moment où l'encens qui montait risquait de l'enivrer, c'était bien là. Rendez compte. Imaginez Gorbatchev ou le président Bush qui se prosterne devant vous, n'est-ce pas, en disant ah, je ne sais pas ce qui se passerait. On dira, on est tellement spirituel qu'on est insensible, hein, mon œil, comme on dit chez nous. Mais non, mais Daniel, dans cette situation, alors qu'il est en train de recevoir de grandes responsabilités, quelle est sa pensée? Sa pensée, c'est son équipe. Pas de jalousie. Mais le désir toujours de rester en équipe. Regardez au chapitre 3. Ce qui est frappant au chapitre 3 dans cette histoire de la fournaise ardente, c'est que les noms des 3 compagnons de Daniel sont cités 13 fois ensemble. Quelqu'un écrirait une dissertation de cette manière, il recevrait une très mauvaise note. On parlerait de lourdeur, de répétitions abusives et que sais-je encore. Mais mes amis, dans la parole de Dieu, Dieu se moque de certaines règles quand il veut faire passer un message. Et le message que Dieu voulait faire passer, c'était le message de l'unité de cette équipe. Comme dans les 3 mousquetaires. Vous avez entendu parler des 3 mousquetaires? Ça, c'est quelque chose de très célèbre chez nous en France. Ils avaient une devise, ces 3 mousquetaires qui étaient 4. Tous pour un pour tous. Mais ça, c'est l'église locale. C'est l'unité du corps de Christ dans sa réalité locale. Et c'est vrai que ces 3 mousquetaires de Daniel 3, comme les 3 mousquetaires en France, n'étaient pas 3. Ils étaient 4. Parce qu'il y avait le Seigneur qui marchait au milieu d'eux. Et Nebuchadnezzar a dû en convenir. Il l'a vu. Il l'a vu, le Seigneur. Il marchait avec eux. Est-ce que le Seigneur Jésus marche vraiment au milieu de mon assemblée locale? Ou est-ce que ça chicane? On se bat, on calomnie, on
colle pas. On cultive des rancunes, des jalousies et tant d'autres choses. Et le diable se frotte les mains. Oh, il n'y a pas d'église parfaite, j'en vois beaucoup tout au long des années. Mais que d'églises qui sont divisées à cause de cela. La jalousie, les rancunes, l'absence d'esprit de pardon, le refus de supporter la différence chez l'autre. Oh Dieu, Dieu veut nous parler dans ce domaine.
Il me reste simplement à dire deux mots de conclusion. Une dernière question se pose. Quelle a été donc l'attitude de Daniel pour qu'au bout de 10 jours, il ait une si bonne mine? Nous aurions pu intituler notre dernière étude « Pour une meilleure mine ». Un meilleur visage dans un monde moderne. Est-ce que c'est simplement une question d'alimentation? Devrions-nous, dans cette fin de matinée, dresser un autel aux végétariens ou végétaliens? Certains l'ont fait.
Je ne pense pas.
Parce que ce n'est pas simplement une question d'alimentation. Proverbe 15:17 dit ceci, « Mieux vaut un plat de verdure là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » En réalité, tout se situe précisément au niveau de l'obéissance d'une part, et du caractère d'autre part. L'humilité de Daniel, une des grandes caractéristiques de cet homme de Dieu. Son humilité porteuse de paix. Daniel est calme, paisible. Et dans chaque situation qui pourrait provoquer de terribles tensions, que fait-il? Il prie. Regardez-le au début du chapitre 2, ou au milieu du chapitre 2, verset 14, alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée, toujours ce souci du tact, de la courtoisie, de la sagesse. La sagesse. Le vieux mot français pour sagesse était la sapience. Et la sapience, c'était la saveur. Le sens du goût. Avoir des papilles gustatives. Verset 14, alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée, toujours ce souci du tact, de la courtoisie, de la sagesse. La sagesse. Le vieux mot français pour sagesse était la sapience. Et la sapience, c'était la saveur, le sens du goût. Avoir des papilles gustatives qui fonctionnent bien, être capable de reconnaître si la nourriture est bonne ou mauvaise. C'est une autre forme de tact. Il y a le sens du toucher, il y a le sens du goût. La mise en application de tout ce que le Seigneur nous donne sur le terrain. Et le jeune Daniel était sage. Et il pose des questions. Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Il écoute la réponse. Et puis il va vers le roi et il lui demande du temps. On voit un jeune homme qui développe déjà à son âge une remarquable maîtrise de soi.
qui pèse, qui réfléchit, et puis qui prie, comme il le fera. 70 ans plus tard à peu près, lorsqu'il sera placé devant les exigences concernant la prière dans Daniel 6. Daniel annonce Jésus-Christ. Il est dominé par le fruit de l'esprit. Et dans ce fruit de l'esprit, il est une colonne vertébrale qui figure en queue dans la liste. C'est la maîtrise de soi. La force intérieure, littéralement. Cette sorte d'axe qui parcourt tout l'ensemble du fruit de l'esprit. Sa dominante, l'amour, mais chacun des éléments est pénétré de la maîtrise de soi. Et nous aurions aimé être une petite souris pour voir le contraste entre le caractère de Daniel et de ses compagnons et celui des autres candidats. L'agitation fébrile de ces autres candidats assoiffés d'ambition, esprit de compétition, la crainte d'échouer, l'essai de tous les trucs pour réussir. Le système D, ça existe aussi ici, le système D, oui. Système D comme d'équerre. Hein. Le piston, on dit aussi chez nous. Le doping, la tricherie, les crocs en jambes, l'énervement, le discrédit jeté sur le concurrent. On peut imaginer tout ce qui se passait dans cette sphère chaude où tant d'ambitions s'entrechoquaient. Mais au milieu de tout cela, il y avait un îlot de paix et de prière. Là où l'orgueil ambitieux, la dureté, la colère et la haine dévorent l'être, sapent la vie physique et l'équilibre nerveux, l'humilité confiante de la dépendance de Dieu a de merveilleuses répercussions sur la vie physique. Voilà de quoi améliorer le teint et donner une meilleure mine. Et je suis heureux de terminer cette série d'études de cette manière en disant que Daniel annonce Jésus, l'homme doux et humble de cœur. À ceci près que la douceur n'est jamais faiblesse. Chez nous, nous disons très souvent, quand quelqu'un est bon, il est bête. Ça commence par la même lettre. Et les autres profitent de la bonté. Et nous sommes dans un monde où si vous êtes trop généreux, on va vous écraser, on va vous vider complètement, on profitera de vous jusqu'à ce que vous soyez dans un centre psychothérapeutique en dépression profonde. Mais dans les Écritures, la bonté, la douceur ont du relief. Elles ne sont jamais faiblesses. Le terme qui est utilisé dans le monde romain, dans le monde grec, évoquait à cette époque le caractère d'un animal sauvage, d'un lion rugissant, capable d'exploser le crâne d'un adulte d'un coup de patte bien dirigé. Mais c'était un animal qui avait été dompté. Pendant longtemps, en Angleterre, il y a eu des aciéries qui contenaient le marteau pilon le plus impressionnant, le plus puissant de toute l'Europe. Et bien sûr, des milliers de personnes venaient visiter ce marteau pilon. Et l'ingénieur qui dirigeait la visite, avait toujours une noix dans sa poche. Il montrait la noix, il la faisait circuler pour que chacun se rende bien compte qu'elle n'avait pas été trafiquée. Et ensuite, il demandait à une personne de bien vouloir approcher et aller jusque sous le marteau pilon pour poser délicatement la noix, la noix. Alors la personne s'approchait, rentrait la tête dans ses épaules, posait la noix, se reculait, il appuyait sur quelques boutons, cette énorme masse capable de vous écraser une voiture en un rien de temps, descendait pesamment, s'arrêtait, remontait, et l'ingénieur disait, vous madame, oui, vous madame, oui, c'est pas l'autre derrière, vous madame, venez. Alors la dame s'avançait en tremblant, il dit, allez chercher la noix. Elle ramassait la noix et lui disait, ouvrez-la. Il ne lui donnait aucun appareil pour le faire. Cette femme pouvait ouvrir la noix, sa coque avait été brisée, mais la pulpe du fruit n'avait pas été touchée. Une force absolument extraordinaire, mais sous un contrôle parfait. Ça, c'est la douceur dans la parole de Dieu. La douceur, nous l'avons vu dans Daniel, c'est dire non quand la gloire de Dieu est en jeu. Mais elle sait aussi s'effacer lorsque c'est la gloire personnelle qui est en jeu. Et je vous laisse simplement ce texte d'Apocalypse au chapitre 5 qui nous permettra de tourner nos regards vers ce Dieu, cet homme, humble et doux de cœur, dans sa gloire, chapitre 5, verset 1er, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de sept sceaux, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux?
Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et vous le savez, on s'attend à voir apparaître un lion. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau, qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Voyez-vous, Daniel m'apparaît dans son histoire comme un lion au cœur d'agneau. Quel type de Jésus-Christ? Quel défi nous lance-t-il il y a maintenant plus de 2500 ans en arrière? Nous qui avons tant de connaissances, quel défi? Le lion au cœur d'agneau. Et nous lisons simplement ces beaux cantiques. Verset 9, il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Et à toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorer. Dieu veuille que nous visions
ce but tellement important. Être rendu de plus en plus semblable à celui qui nous a sauvés. Pour une meilleure mine dans le monde moderne, nous voulons prier. Seigneur, nous confessons que devant ce message de ta parole, nous nous sentons repris. Nous voulons te demander pardon. Nous avons tant de chemin à faire dans cette transformation du caractère, ce développement du fruit de l'esprit. Cet équilibre entre sainteté et manifestation de l'amour. Seigneur, nous comptons sur toi. Au moment où nous allons, dans quelques heures, nous séparer, retrouver nos activités à chacun, Seigneur, rappelle-nous ce que nous avons partagé. Applique-le à nos cœurs par ton esprit et donne-nous de notre côté d'être totalement disposés à nous laisser conduire et façonner par ton esprit afin que le monde reconnaisse à notre témoignage que tu es vraiment notre Dieu, le seul vrai Dieu et le seul sauveur pour tous les hommes. Merci Seigneur de pouvoir compter sur toi pour cela, à cause et dans le nom de Jésus.